Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans. Et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Bonjour Audrey, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Feedback. On va pouvoir partager énormément d'éléments sur les sciences comportementales ensemble. T'es une vraie experte sur ce sujet et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler un petit peu de tout ça. Ça peut paraître très obscur à beaucoup de personnes et vraiment on va voir comment ça peut s'appliquer dans le management. Avant de commencer à te poser 46 000 questions et à te mitrailler tout ça, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené aussi à t'intéresser à ça? Voilà, quel est un petit peu ton background professionnel?
Ok, bonjour Elodie, puis bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent aussi. Et je te remercie vraiment pour cette invitation, ça me fait plaisir de te rencontrer en vrai, si je puis dire, et d'être présente sur le podcast Feedback. Globalement, pour pas faire un podcast de 3 heures, pour présenter rapidement mon parcours, en fait, moi, à la base, donc je suis psychologue. Psychologue, je dis souvent un petit peu comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire que j'ai travaillé en hôpital, dans le secteur privé aussi, en cabinet libéral, pendant 8 ans à peu près. Et puis, tout doucement, j'ai bifurqué, j'ai voulu, on va dire, développer mes connaissances. Je me suis toujours intéressée à la psychologie. En réalité, c'est un peu une passion d'adolescente, comprendre l'humain, au-delà des explications biologiques, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va se comporter de telle ou telle manière. Donc, du coup, cette passion, on va dire, pour la psychologie, je l'ai partagée, on va dire ça comme ça, sur YouTube, en créant une chaîne qui s'appelle « La psy qui parle ». Chaîne que j'ai créée en 2017. Donc j'ai partagé des vidéos plutôt ludiques de 10-15 minutes pour expliquer nos comportements, pour décrypter la personnalité de certains personnages de série ou de personnages réels, si on peut dire ça comme ça. Et petit à petit, en fait, il se trouve que j'ai été amenée à faire des ateliers, des conférences. On m'a de plus en plus sollicité au niveau des entreprises. Et donc j'ai doucement, je dirais, bifurqué vers le management, vers comment engager, motiver ses équipes, tout ce qui est de l'ordre aussi de la gestion des conflits, gestion des personnalités en entreprise, jusqu'à finalement en fait quitter le monde, on va dire, de la psychothérapie, parce que j'étais plutôt psychothérapeute en fait dans mon approche, pour finalement embrasser, on va dire, le, si on peut dire, métier d'entrepreneur.
Et le monde de l'entreprise.
Oui, c'est ça. Donc maintenant, voilà, mon travail, c'est vraiment d'accompagner des dirigeantes d'entreprise, plutôt de TPE, start-up, et d'accompagner aussi leur équipe. Donc là, on est plutôt sur de la TPE-PME pour former les managers, mais vraiment avec une approche sciences comportementales, neurosciences, pour comprendre vraiment l'humain qui est au cœur des équipes, en fait. Parce que tout l'enjeu, c'est quand même ça, hein, c'est de savoir gérer les humains qu'on côtoie tous les jours et qu'est-ce qui va motiver les uns, qu'est-ce qui va démotiver les autres, etc.
Ok, super. Merci pour ton parcours parce que, comme on disait en off juste avant de commencer, moi, je te connais sous l'angle management. J'ai croisé tes posts sur LinkedIn et sur Insta. Et c'est vrai que j'ai découvert après coup ta chaîne YouTube et le côté la psy qui parle. Donc, je suis ravie aussi que tu aies parlé de ça. Et c'est vrai que c'est important. Je pense que ça explique pas mal de choses aussi dans ton parcours et l'intérêt que tu as aujourd'hui maintenant à travailler pour les entreprises sur ces sujets-là. Alors, forcément, j'ai plein de questions à te poser parce que le cerveau, les comportements, moi, j'adore ça. Enfin, c'est pas pour rien que j'adore le management. C'est que comprendre l'humain, ce qui se passe derrière, c'est hyper intéressant. Peut-être commencer par les biais cognitifs. Au niveau des biais cognitifs, déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est?
Oui.
Et en quoi ça peut impacter un manager dans son quotidien? Comment est-ce qu'il fait pour comprendre les biais cognitifs qu'il subit et pour les contourner, même si je crois qu'on en a plus d'une centaine qui jouent. Donc, c'est difficile de tous les contourner, mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour jouer avec dans son quotidien de manager?
Alors, du coup, pour reprendre un petit peu, on peut parler déjà du premier écueil, la première difficulté, je dirais, qui est de gérer l'humain. Gérer l'humain, en fait, souvent, en fait, on va s'appuyer sur notre intuition, sur notre bon sens, en se disant que, bon, bah, de toute façon, on a une vision de l'être humain qui est plutôt rationnelle, logique, etc. En réalité, les dernières recherches qui ont 30, 40 ans maintenant, hein, elles montrent que non. Non, l'être humain, ce n'est pas quelqu'un de rationnel qui va peser le pour, le contre, qui, bah, il suffit de lui dire quelque chose pour qu'il le mette en pratique. Non, c'est pas vraiment, cet humain-là n'existe pas tout à fait, ou en tout cas on va dire qu'il est rationnel mais quand même avec certaines limites. Et donc en fait, pour faire un mini cours si on veut de neurosciences, hein.
Vas-y, profites-en.
tu me dis, hein, si...
T'inquiète, vas-y, c'est l'occasion aussi.
Si je vais trop dans les détails. Et en fait, c'est pour ça qu'on se heurte à des difficultés de compréhension, parce qu'en, si tu as une vision de l'être humain de, bah, de toute façon, en fait, il est rationnel, il est logique, il suffit de lui expliquer les choses, pour qu'il soit motivé et pour qu'il les fasse bien, bah, forcément, on va se planter. En réalité, en fait, notre cerveau, si tu veux, je disais, il est plutôt émotionnel. Et il y a un chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a eu un prix Nobel pour ses recherches, qui montre qu'en fait, on a deux systèmes de pensée. Donc, ce sont pas deux zones du cerveau séparées, c'est une manière de traiter l'information. Et il s'est pas trop foulé, il appelait ça système 1, système 2.
Ça sent le brainstorming qui a duré des heures, ça.
C'est ça. Il s'est dit, bon, on va faire simple quand même, parce que, bon, on a le cerveau reptilien qui a réussi à simplifier les choses, même si, voilà, c'est pas tout à fait juste en réalité, mais donc système 1, c'est vraiment tout ce qui va être de l'ordre de des automatismes, des réflexes. Ça nous demande pas beaucoup d'énergie. Donc si par exemple je te dis 2 plus 2 ça fait combien, bah très vite tu vas me dire
5, bien évidemment.
12.
Voilà.
Voilà. Si par contre je te demande 27 fois 98, en théorie, à moins d'être une experte en calcul mental, ça va être un peu compliqué. Donc, quand on est sur du 2 plus 2, bah, sur voilà des comportements simples, bah, conduire par exemple sur une route connue, éteindre ton réveil, on est dans du système 1. Donc, c'est rapide, ça demande pas beaucoup d'efforts. Par contre, quand on est sur du 28 fois 92, ou que bah, on doit aussi, par exemple, bah, je sais pas moi, faire attention à la manière dont on doit se comporter, la façon dont on doit parler avec des personnes qu'on vient de rencontrer, là, on est dans du système 2. Et là, c'est beaucoup plus lent, c'est réfléchi comme mode de pensée et de fonctionnement, et c'est beaucoup plus coûteux en termes d'effort mental. Donc forcément, notre cerveau, par défaut, il est un petit peu paresseux, entre guillemets, il est un peu économe, et donc 95% du temps, on va dire, il va utiliser le système 1. Donc il est en mode réflexe très très vite. Enfin, ça se comprend aussi parce qu'en fait, c'est pour une question de survie. Lui, il a besoin en fait d'aller très vite, de prendre des décisions, j'ai envie de dire presque de manière quasi instantanée. S'il est face à un danger, s'il est face à un ours brun en forêt, bon bah il va pas tergiverser, se demander alors je vais analyser la situation.
Non, non. Est-ce que l'ours fronce les yeux? Est-ce que je pars à gauche? Est-ce que je le contourne?
C'est ça. Est-ce que je fais trois tours sur moi-même? Donc en réalité, voilà, notre système 1, il est bien pratique, parce qu'il est quand même rapide, mais il a des limites. Voilà, le problème, c'est qu'il est tellement rapide qu'il prend des raccourcis mentaux. Et ce sont ces raccourcis mentaux qu'on va appeler des biais cognitifs. Voilà, donc tu l'as très justement dit tout à l'heure, on en a plus d'une centaine. La problématique, c'est que c'est pas parce qu'on les connaît que pour autant on va les déjouer. Mais ça permet déjà d'être un petit peu plus sensibilisé et d'y prêter attention.
Et du coup, est-ce que tu as en tête peut-être les 3 plus gros biais cognitifs qui peuvent jouer dans une vie professionnelle? Bon, j'en pense un en particulier, le biais de confirmation, mais peut-être qu'il y en a d'autres, et peut-être que tu peux prendre le temps aussi d'expliquer comment ça se concrétise, notamment dans le cas du travail quand on est manager, parce que ça peut aider aussi à mieux comprendre ce que tu as décrit comme situation au début, mais je comprends pas, ça fait 10 fois que je lui explique et c'est pas pour ça qu'il met en application, voilà. C'est qu'il y a forcément des biais cognitifs qui entrent en jeu derrière. Donc, est-ce que tu peux développer peut-être 1 ou 3 biais cognitifs que rencontrent la plupart des managers dans leur quotidien?
Ouais, il y en a un qui est assez délicat à observer parce qu'évidemment ces biais cognitifs souvent ils sont inconscients automatiques, donc on ne sait pas finalement qu'on est en train d'avoir un biais, ou en tout cas qu'on se fait avoir par ce biais. Je pense à celui-ci qui est moins connu, qui s'appelle l'erreur d'attribution fondamentale. C'est quoi?
Je connais pas.
Bah le nom est pas hyper simple déjà. C'est qu'est-ce qui va se passer? Imaginons vous avez un collaborateur. Je sais pas moi, il vient d'arriver dans l'équipe et puis ben premier jour il arrive en retard et puis du coup ça fait pas bonne impression, on va dire. Ou alors, je sais pas, moi, il vous rend un dossier ce jour-là qui est pas forcément très bien fait. Et ben peut-être que vous allez, on va dire, vous faire une image négative de lui. En tout cas, vous allez souvent lui attribuer la responsabilité, on va pas dire à 100%, mais en tout cas en majorité, de ce qu'il a mal fait. Et vous allez minimiser ou alors ignorer des facteurs externes qui pourraient être les circonstances, qui pourraient être, je sais pas, moi, il y a eu des bouchons ce jour-là, bref, d'autres facteurs extérieurs. Donc cette tendance qu'on va avoir à, voilà, rendre la personne responsable et à oublier qu'il peut y avoir d'autres éléments qui entrent en jeu. Ça pose un problème particulier, c'est notamment dans tout ce qui va être gestion des erreurs ou des problèmes ou des incompréhensions. Parce que quand tu te fais avoir par ce biais, du coup, tu vas considérer que c'est de la faute, entre guillemets, de la personne, et donc tu ne vas pas chercher des solutions d'amélioration. Évidemment que si, à l'instant T, mais tu vas pas analyser les différents facteurs extérieurs qu'on peut jouer qui permettraient d'améliorer, je sais pas, ce process ou d'éviter que cette erreur se reproduise. Ça, c'est un des problèmes, ouais.
Et tu parles d'événements extérieurs, mais c'est aussi, on va pas forcément chercher aussi de notre côté ce qui aurait pu entraîner ça,
Exactement.
au niveau du comportement.
Tout à fait. Ben là, c'est presque. Il y a un deuxième biais, je dirais, qui est un peu son pendant inverse, qui est quand nous on fait quelque chose, je vais pas dire de mal, mais en tout cas quand on se plante dans un dossier ou qu'on fait une erreur, bien souvent on va attribuer la faute à des facteurs extérieurs. Mais par contre, quand on réussit quelque chose, voilà, un projet, une vente, je ne sais quoi, on va s'attribuer les mérites. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais d'autocomplaisance. Voilà. Donc si j'ai réussi, c'est grâce à moi. Si je me suis plantée, c'est de la faute des autres. Je pense à, tu sais, quand on est ado, quand on a réussi un contrôle ou ça, c'est grâce à notre travail, mais quand on l'a raté, c'est parce que le prof, il a pas donné les bonnes explications.
Et qu'il est méchant ou qu'il veut nous saquer ou tout
Bien
ça.
sûr.
ça me fait penser, moi j'avais un ancien directeur commercial, j'arrêtais pas de dire que bah, lui quand il gagnait, c'était grâce à lui, hein, parce qu'il portait tout le service sur ses épaules. Et quand on loupait un client ou un appel d'offres, bah, c'était forcément la faute des équipes parce qu'on était vraiment
Voilà,
nuls.
c'est ça.
Voilà. Donc,
En plein dedans, l'erreur d'attribution fondamentale,
à
là,
pieds
c'est,
joints. Ouais.
ouais, carrément.
Ok. Est-ce que tu en as un troisième à nous partager qui peut se retrouver aussi dans le quotidien de manager? Je sais qu'il y en a beaucoup,
Moult,
mais peut-être
moult.
le troisième, soit original ou peut-être qui est le plus courant. Voilà. C'est toi qui, je te laisse choisir, peut-être par rapport à ça.
Donc oui, tu avais évoqué le biais de confirmation, effectivement. Donc celui-ci, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les biais, souvent, ils se chevauchent. Il n'y en a pas juste un seul. Le biais de confirmation, ça peut être, bah, par exemple, j'ai une mauvaise image ou une mauvaise opinion sur quelqu'un, et finalement, je ne vais garder en tête que les informations qui vont venir confirmer mon opinion sur cette personne, et je vais rejeter ce que la personne fait de bien, par exemple. Je trouve qu'il y en a un autre qui est aussi intéressant, c'est l'effet de halo. Donc, qu'on va beaucoup beaucoup retrouver notamment dans le recrutement ou quand vous devez donner une promotion à un collègue, enfin le faire monter en grade par exemple. C'est donc si on prend la situation de recrutement, la personne qui va arriver, je sais pas moi, très souriante, bien habillée, qui fait bonne impression, qui sait bien s'exprimer, etc. Eh bien, ce qu'on a montré, c'est que souvent on a tendance à les privilégier, c'est-à-dire qu'on va les évaluer comme étant plus compétentes et parfois, on peut, j'ai envie de dire, pas oublier, mais en tout cas, pas toujours poser les questions qui permettraient de vérifier si la personne possède les compétences que l'on recherche. Qu'on va un peu se faire avoir par notre intuition, on va dire, là aussi.
Est-ce que l'effet de halo, c'est ça aussi qui s'applique quand on dit que c'est un médecin ou un avocat qui prend la parole et que du coup, on a plus tendance à croire ce qui est dit par ce genre de personne ou c'est un autre biais cognitif?
Ouais, ça peut y faire penser, c'est plus l'effet d'autorité, ça. Voilà. Qui est en fait une personne qui a une certaine posture ou qui est reconnue socialement, on va dire, par un statut ou autre, on va lui accorder plus de crédit quand elle va prendre la parole.
Parce que ça m'a fait vraiment penser à ça, c'est pour ça que je me permets de rebondir dessus. Et du coup, quand t'as commencé à t'intéresser aux sciences comportementales, alors, je sais pas si c'est venu dès le début de tes études et le début de ta carrière ou si c'est venu un petit peu après coup, est-ce que t'as constaté des choses un peu contre-intuitives par rapport aux sciences comportementales? Tu vois, tu disais au début, on pourrait croire qu'on est tous des êtres rationnels, mais au final, pas du tout. Donc ça, tu vois, c'est une idée un peu contre-intuitive. Mais est-ce que tu en as constaté d'autres quand tu as commencé à t'intéresser à ça? Et qui t'ont un peu changé ta vision de ton quotidien ou la vision du monde du travail?
Ah oui, bah, déjà il y en a une là, tu vois, c'est une autre recherche aussi. Celle-ci, j'en parle partout dans mes formations. En fait, on sait que l'être humain, c'est un être social. Ça, c'est pas une grande surprise. Mais ce qu'on savait pas en fait et qu'on a découvert, bah là, c'est vraiment grâce aux neurosciences et à l'imagerie cérébrale, c'est qu'en fait l'être humain, quand il se sent rejeté socialement, eh bien en fait, quand on observe son cerveau, on voit que ça active les mêmes zones du cerveau que celles pour une douleur physique.
Ok.
Ouais, notre cerveau, il vit le rejet social, ou le fait par exemple de ne pas être intégré à une équipe, ou à un groupe d'amis ou autre, comme une douleur physique. Donc moi je dis souvent, ne pas intégrer un nouveau collègue, c'est lui mettre une claque dans la figure, pour faire simple.
Ok, ouais. Ah ben alors ça, je savais pas du tout.
Ouais, et je trouve ça m'a choquée en fait. Mais du coup, ça remet vraiment beaucoup en question tout ce qui est intégration des nouveaux collaborateurs, puis même des anciens, enfin, bonne ambiance dans l'équipe. En psychologie, on parle de sentiment d'appartenance. Tu sais, dans le langage courant, on va dire cohésion sociale. Mais en psychologie, on a vu qu'en fait, il fallait qu'il y ait ce sentiment pour les collaborateurs d'être intégrés à l'équipe. Et ça, c'est un facteur de motivation au travail. C'est ce qui te donne envie d'aller au travail, c'est ce qui te donne envie de performer. Et souvent, en fait, ce que je vois, c'est que au niveau manager ou au niveau dirigeant, on se dit juste que c'est un plus, que bah finalement on n'est pas là pour se faire des
C'est
potes,
vrai.
c'est pas grave si les gens s'entendent pas. Et on aurait dit non, parce qu'en fait ça va jouer sur leur motivation. Et tu le sais peut-être aussi, bien souvent t'as des gens qui quittent une entreprise. Alors des fois on dit quitte un manager et
Ouais.
voilà.
La phrase qu'on voit partout sur
Voilà.
LinkedIn.
Mais aussi on quitte une équipe parce qu'il n'y a pas une bonne ambiance. Ou à l'inverse, moi j'ai beaucoup vu, parce que j'ai travaillé dans le monde médical, des infirmiers et des infirmières qui restaient à leur poste parce qu'il y avait une bonne ambiance dans l'équipe, alors que les conditions étaient quand même pas toujours évidentes.
Ouais, parce que ça me fait rire, parce que comme tu dis, oui, on quitte la plupart du temps son manager. Et tu fais bien de dire, parce que t'as dit dans l'intégration d'un nouveau collaborateur, mais c'est aussi valable dans le reste de l'évolution de l'équipe. Dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu pointé du doigt ou qui est mis à l'écart, du coup, il va y avoir ce sentiment qui va apparaître de ne pas appartenir au groupe, d'être rejeté et donc d'avoir les mêmes symptômes, entre guillemets, qu'un problème physique, qu'une douleur physique qui vont apparaître. Donc c'est valable à la fois au début quand on recrute la personne, quand on l'intègre, mais aussi après de faire attention qu'il n'y ait pas de personne qui soit isolée, mise à l'écart, pointée du doigt par le reste de l'équipe. C'est important aussi par rapport à ça, ouais.
Tout à fait, mais le problème c'est que c'est assez subtil en fait. Bien souvent, si on posait la question au manager, il dirait ben non, je l'ai pas mis à l'écart. Oui, mais tu l'as pas intégré. Et en fait, je dis toujours ne pas faire, c'est mal faire en fait. C'est difficile, mais ignorer un collaborateur, par exemple, ne pas faire du feedback positif ou négatif, hein, c'est très très démotivant. En fait, chaque fois que vous ne faites pas de feedback, encore plus si on parle du positif, mais en fait, vous êtes en train de détruire la motivation de la personne, puisque nous, on est des êtres humains, on est des êtres organiques et on a besoin de carburant. Et ben notre carburant, c'est de la reconnaissance sociale,
De la
de la bonne
progression.
entente, de la progression, etc. Ouais.
Merci d'insister là-dessus. C'est pas pour rien que ce podcast s'appelle comme ça aussi.
C'est vrai.
ouais, non, mais c'est clair. Et alors, du coup, on a connaissance de ces biais cognitifs. On voit qu'il y a des comportements, effectivement, qui se passent, voilà, des réactions de notre cerveau qui peuvent être très intuitives, comme tu. C'est peut-être pas le bon terme, mais comme tu
Si
dis,
automatique.
voilà. Comment est-ce qu'on fait quand on est manager, quand on a connaissance de ça pour, ben, améliorer son management en fonction de ça, pouvoir mieux intégrer, comme on l'a dit tout à l'heure, son équipe. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans son quotidien pour tenir compte de ce que nous enseigne, de ce que nous apporte les sciences comportementales?
Donc si on reprend très vite la théorie système 1, système 2, le
Ouais.
travail du manager, en fait, c'est d'inhiber son système 1, c'est-à-dire que au lieu d'être en mode réaction automatique, de mettre ça en veille, si je puis dire, d'activer son système 2, donc qui va être plutôt voilà dans une forme de réflexion un peu plus poussée, et de se dire ok, maintenant par exemple je dois faire un feedback à un collaborateur, comment je fais? Donc soit si je le fais en mode système 1, c'est je le fais spontanément sans réfléchir, j'ai même pas réfléchi quel était mon besoin ou ma demande in fine, ce qui arrive souvent malgré tout
Ouais, au détour de la porte, à la
voilà.
machine à
Voilà.
café,
Si c'est
ouais.
du positif, à la limite, c'est moins, il y a moins d'enjeux, on va dire, donc ça va. Mais si c'est quelque chose de l'ordre du feedback constructif, bah, le but là, ce serait concrètement de se dire, ok, mais en fait, quels sont les faits? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a quoi comme impact? Voilà, d'être extrêmement rigoureux, j'ai envie de dire, et structuré. Et puis surtout de réfléchir à voilà, quelle est ma demande et mon besoin? Qu'est-ce que j'ai envie que le collaborateur change ou améliore? Comment je peux l'accompagner? Donc, déjà, de structurer un petit peu sa pensée, juste d'écrire. Alors, moi, souvent, je les invite à écrire sur le papier, parce que c'est une façon d'extérioriser et de prendre du recul sur nos pensées. Ça, c'est une chose.
On est tout à fait d'accord sur ça, ouais.
Voilà. Puisqu'en fait, on va dire que nos émotions, elles sont très, très chouettes, parce qu'elles nous aident pour beaucoup de choses. Elles sont là pour nous envoyer des messages, mais elles peuvent aussi brouiller notre vision, si je puis dire.
Ouais, de le poser sur papier, ça permet d'éclaircir, de mettre les bons mots.
Exactement.
Et de mettre de la distance aussi, un petit peu avec tout ça. Comme tu as dit, de l'extérioriser d'une façon ou d'une autre. Donc ouais, le poser par écrit, c'est hyper, hyper, hyper important. Le cadre des émotions, mais aussi, comme tu as dit, le fait de vouloir faire un feedback à quelqu'un, ouais, complètement.
Donc d'être vraiment dans cette idée-là, donc, et pourquoi je fais ça, en fait, de travailler un peu ce qu'on appelle la métacognition, c'est je réfléchis à mes propres pensées, à mes propres comportements. Et en recrutement, moi, c'est quelque chose sur lequel j'accompagne beaucoup. Et là, on va vraiment réfléchir, bon, alors, quel profil je veux recruter? Pourquoi je veux un profil comme ça? Quelles compétences techniques je veux? Quelles compétences comportementales la personne devrait avoir? Et alors, moi, surtout, je vais aller challenger un peu. Ah bon, tu me dis que t'as besoin de quelqu'un d'autonome? Mais ça veut dire quoi, autonome? Donc, on va creuser pour éviter toute ambiguïté. Et moi, j'aime bien réfléchir en termes de comportement observable. Quelqu'un d'autonome, il fait quoi, par exemple, par rapport à quelqu'un qui n'est pas autonome?
Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ouais. Parce que ça permet d'aller au-delà des mots valises, où chacun interprète, en fait, on a tous, je pense, une version différente de l'autonomie, d'ailleurs. Donc, c'est bien, effectivement, comme tu dis, d'aller creuser tout ça, et c'est génial, le tips que tu donnes, parce que, effectivement, c'est de mettre concrètement des faits qui sont observables sur ça. T'as complètement raison, parce que on a tous une vision différente de l'autonomie, certains soft skills, voilà, la bienveillance, ça veut dire quoi, l'autonomie, ça veut dire quoi, etc. Ouais, complètement.
La responsabilité et autres. Et donc, ça veut dire aussi que concrètement, vous allez lister votre, par exemple, les compétences dont vous avez besoin pour ce poste-là. Mais ça veut dire aussi que pendant l'entretien, vous allez poser des questions qui vont être en théorie à peu près les mêmes quand même pour chaque collaborateur, et vous allez prendre des notes. En fait, c'est pas juste à l'instinct. En fait, la pire chose à faire, c'est d'évaluer quelqu'un à l'instinct. Et ben là, il y a un biais qui s'appelle le biais d'excès de confiance. C'est croire qu'on a de très bonnes compétences, notamment là, pour jauger les gens, pour les sentir. En réalité, on s'appuie sur des stéréotypes, surtout, et des préjugés inconscients.
Alors, ça me va très bien que tu ailles sur le sujet du recrutement, parce que c'est un sujet que j'adore. J'ai adoré recruter, j'adore recruter. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est loin d'être évident. Et souvent, tu sais, on sort des rendez-vous en mode « Ah, elle, je la sens bien ». Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus au niveau du recrutement? Parce que là, tu vois, tu nous as parlé d'un biais cognitif, mais je pense qu'il y en a encore d'autres qui concernent le recrutement. T'en as, voilà, t'as cité pour aussi définir ce qu'on attend réellement de la personne, les compétences qu'on attend, etc., etc. C'est quoi l'apport des sciences comportementales sur le recrutement? Parce que là, effectivement, je pense qu'il y a une part énorme d'intuition chez beaucoup de personnes, voire même beaucoup de personnes, et moi je me mets dans ce groupe-là, qui ont réussi 2-3 recrutements, et ça y est, on est les boss du recrutement, on réussira toute notre vie à recruter des gens, tu vois.
C'est ça, ouais. Ouais. Et c'est génial, parce que ça c'est un biais aussi, et ça s'appelle le biais d'après-coup.
Et ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, on va pas, si on voulait être très rationnel du coup, eh bien, on devrait noter tous les recrutements qu'on a fait. Donc, je sais pas, on en a fait 100 sur 100. Combien réellement ont été des recrutements réussis? Alors, on peut jouer sur les mots avec qu'est-ce que ça veut dire réussi, mais on admettra que voilà, on a des critères, c'est-à-dire que la personne est restée sur le poste X temps. Enfin, peu importe, chacun les définit comme il veut. Mais voilà, on va garder en tête biais de confirmation, hein, ce qui nous correspond. Ah ouais, je suis forte en recrutement par rapport à toutes les fois où on s'est un peu planté et
oui,
on s'arrange, hein, on se fait
ouais.
Notre vérité. Hein.
Ça arrive et pourtant le recrutement, j'aime bien dire que c'est limite une science. Enfin voilà, c'est un métier, c'est des compétences à part entière et je sais qu'il y a des personnes de l'audience qui ne passent pas par des cabinets de recrutement pour choisir les personnes qui vont travailler avec elles. Du coup, quels sont les conseils ou les éléments où il faudrait porter attention justement pour ne pas se laisser submerger par nos biais cognitifs quand on recrute quelqu'un, quand on passe pas par un professionnel du coup pour le faire? À quoi est-ce qu'on doit faire attention? Donc, t'as dit de lister les comportements attendus, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois?
Donc ça déjà c'est pas mal. Après de se challenger aussi là-dessus parce que moi je vois aussi beaucoup de personnes qui ont des préjugés, alors toujours inconscients. Je donne toujours le même parce qu'il est assez répandu, c'est j'ai besoin d'un commercial. Mon commercial, il doit être très à l'aise socialement et extraverti. Bon, il se trouve que pas de bol. Au niveau scientifique, quand on regarde, les meilleurs, en fait, ce sont les ambivertis. Les ambivertis, c'est ceux qui sont au milieu, si tu veux. Faut imaginer extraversion, introversion comme un continuum. D'un côté, t'as introverti, et puis t'as plein de degrés d'introverti. Ça va jusqu'à très, très extraverti. Et au milieu, t'as l'ambiverti. Bon. C'est, voilà. On sait que ça, ce sont des personnes qui sont plutôt, plutôt douées, mais ça suffit pas non plus pour être un bon commercial.
Ouais. Et c'est marrant, tu dis ça, parce que c'est vrai, dans l'image collective, le commercial, c'est le vendeur de voitures, quoi. Enfin,
oui, le tchatcheur, un peu.
Hein. Voilà, Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, on va tout dégommer et tout, les billets qui pleuvent, tout ça. Donc, c'est marrant que tu parles de cette image-là, parce qu'effectivement, dans l'image collective, un commercial, c'est le tchatcheur, quoi, ou la tchatcheuse.
C'est ça. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, imaginons, tu fais ta petite liste de compétences et dans les soft skills, tu vas mettre « la personne doit être très à l'aise pour s'exprimer ». Ce qui n'est pas complètement faux non plus, mais c'est trop flou. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand tu vas être face à cette personne? Comment tu vas évaluer? Quelles questions tu vas lui poser pour savoir ça? Le plus souvent, on va se planter et on va se fier uniquement à l'attitude de la personne à l'instant T. Donc, si la personne est très à l'aise, on va croire que elle a les compétences. Si elle est stressée, on va penser qu'elle n'a pas les compétences. Ça, c'est encore un autre biais. Il y a une étude qui l'a montré, c'est que les candidats qui sont anxieux, même juste au niveau non verbal, c'est-à-dire ils vont détourner le regard, ils vont se frotter les mains, frotter la cuisse, etc., vont être considérés comme moins compétents.
Ouais, c'est fou les signaux. C'est très inconscient. Juste les signaux corporels, ce que ça peut envoyer dans le cerveau des personnes en face, c'est assez dingue quand même, ouais.
Donc si toi t'as pas t'as toutes tes questions déjà bien ciblées, ça va être délicat. Et j'aime bien donner l'image de d'Ulysse. Voilà, tu sais, Ulysse sur son bateau qui va croiser les sirènes et effectivement, pour résister au chant des sirènes, il demande à son équipe de l'attacher à un mât. L'équipe se met de la cire dans les oreilles pour résister à ce chant. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous, quand vous allez recruter quelqu'un, vous allez devoir résister à des biais cognitifs, à la tentation de vous dire « il est sympa, elle est sympa », etc. Je dis toujours « on recrute pas des amis, en fait. Évidemment, c'est mieux si la personne est sympa, mais un entretien qui se passe bien, où on a eu un échange chaleureux et agréable, ce n'est pas prédictif de la performance de la personne au poste. Mm-hmm. Voilà.
J'ai forcément une question qui me vient. Donc là, on est très axé recrutement, et je vais plutôt demander ton avis là-dessus. Souvent, il y a deux façons de voir le recrutement. On va mettre en avant les compétences techniques, ou mettre en avant plutôt les compétences comportementales. Pour toi, je me doute bien qu'il n'y a pas la meilleure solution, peut-être, je sais pas, mais pour toi, de ton expérience, de ce que tu as vu en entreprise, etc., c'est quoi qu'on doit mettre en avant, c'est quoi qu'on doit prioriser lors d'un recrutement? Je sais que moi, personnellement, j'ai évolué là-dessus, mais du coup, j'aimerais bien avoir ton avis.
C'est intéressant parce que j'entends pas les mêmes choses déjà aussi selon, j'ai envie de dire, les secteurs, les structures et la taille des entreprises. Côté entrepreneur, j'entends beaucoup, il faut privilégier les soft skills, etc. Moi, je recrute un potentiel. Toujours pareil, hein, moi, j'ai envie de demander, mais comment tu sais que cette personne-là a un potentiel? Tu vas te baser sur des a priori, sur des jugements toujours inconscients. Hein, donc, tu sauras pas finalement que tu es en train de faire de la discrimination malgré tout. Et puis côté grosse structure, voilà, j'accompagne aussi des grands groupes. Eux, ils ont vraiment cette idée de la compétence technique. Donc évidemment, il n'y a pas de bonne solution et on est nous les humains un petit peu binaires, tu vois, c'est ou l'un ou l'autre. Idéalement, forcément, il faut les deux. Donc moi déjà dans les accompagnements, je leur dis on va évaluer les deux parce que tu ne vas pas recruter quelqu'un qui va être tout seul dans son coin. Donc tu vas évaluer ses compétences à communiquer, à s'intégrer à une équipe, etc. Mais de l'autre côté, si t'es entrepreneur ou alors si t'as une petite structure, faut quand même te demander, ok, mais est-ce que la personne, si je mise sur un potentiel et des compétences comportementales, est-ce que je vais pas passer mon temps à devoir la former? Est-ce que peut-être je vais devoir lui payer des formations supplémentaires, passer plus de temps? Et ça, c'est un coût. Donc quand t'es chef d'entreprise, t'as intérêt à le réfléchir. Donc souvent, il y a cette envie, tu sais, d'embaucher des alternants, mais bon...
Ça demande du temps de formation.
C'est de l'investissement.
Oui. Et c'est un vrai accompagnement.
Mais oui, parce que tu mets pas en argent, tu le mets en temps. Donc moi je dis toujours, bah calcule ton taux horaire, puis tu vois combien ça coûte au final. Et après, compétences techniques, voilà, donc faut les avoir, faut ou au moins faut avoir un minimum. Et puis après, ce qui va se jouer, c'est aussi au niveau des postes. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, là, je parle plus pour les grands groupes, quand on veut faire monter quelqu'un à des postes, par exemple, de manager, c'est plus intéressant des fois de miser sur la personne, donc on va dire à compétences techniques égales, effectivement, de miser sur la personne qui a un peu plus de prédisposition à être à l'écoute de l'équipe. Voilà. Et même, voilà, c'est ça que je voulais te dire. C'est même quand les compétences techniques de la personne sont moins bonnes, comment dire ça? Les soft skills compensent, en fait, les compétences techniques manquantes. Mm-mm. Grosso modo, c'est ça.
Ouais. Ça, je suis assez d'accord avec ça, parce qu'effectivement, quand on arrive dans des postes de management, la compétence technique pure qu'on a, enfin, notre métier de base, parce souvent, on a un métier de base. Comme je dis souvent, moi, je suis contrôleuse de gestion de base. Je suis devenue manager. Manager est un métier différent. Ma compétence technique pure, c'est de faire des fichiers Excel, de faire des formules à gogo, etc., etc. Et plus on va monter dans des postes de management, moins cette compétence technique pure a un intérêt, en fait. On va devoir développer d'autres compétences, des compétences comportementales, relationnelles, etc. Et effectivement, c'est là où les soft skills vont prendre plus une part importante dans le choix de la personne. Dès qu'on va devoir aller, voilà, dans des postes de management, je mets certains postes de direction, etc., un peu à part, parce que ça peut demander certaines compétences techniques, mais effectivement, plus on va monter dans la hiérarchie, plus c'est les soft skills qui vont prendre le pas, et les compétences techniques vont être plutôt être moins intéressantes à aller chercher. Comme je dis souvent, hein, c'est pas le meilleur technicien qui va faire le meilleur manager, loin de là.
Oui.
C'est même la plus grosse erreur à faire.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais ouais, oui, moi, ce que je vois, voilà, plutôt, là, c'est sur des TPE ou petites PME, on va faire monter en compétences, la personne qui a le plus d'ancienneté. Mm-hmm. Bah oui, mais je l'ai mis elle ou je l'ai mis lui, parce que ça fait quand même 10 ans qu'il est dans la boîte, qu'il est fidèle à l'entreprise. Bah ouais, mais en même temps, en plus, il y a un vrai paradoxe, c'est que souvent, ils vont se plaindre, entre guillemets, que bah voilà, il fait pas bien son poste de manager, il devrait motiver l'équipe. Mais oui, mais il a pas de formation. Et en fait, ça c'est peut-être un des écueils, je pense, un des vrais problèmes, c'est qu'on considère le management comme une compétence naturelle, la communication également, alors qu'on a jamais eu de cours dans notre vie. Enfin, je sais pas toi, mais moi, à l'école maternelle ou même jusqu'au collège lycée, je n'ai pas eu de cours de psychologie. Je ne sais pas comment fonctionne l'humain du point de vue des décisions et de ce qui le motive. On arrive comme ça à des postes de management et on devrait savoir instinctivement, c'est bien ça le problème, gérer les gens. Bah non, je suis désolée, mais le fameux, je disais, bon sens ou sens commun, il est commun à personne. Chacun a son câblage différent.
Et effectivement, jamais eu de cours de communication, de relations aux... Enfin, on ne l'apprend jamais. Et comme tu dis... Même certaines entreprises nomment à des postes de management sans apporter le support derrière de formation ou d'accompagnement par rapport
même,
à ça.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est compliqué, comme tu dis. En fait, le poste de manager est censé être naturel, parce que beaucoup de personnes aussi le voient comme une brique supplémentaire et pas comme un rôle à part, avec des compétences à part, un agenda à part, un métier. Enfin, c'est vraiment un métier à part entière. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui le voient pas comme ça. Et je pense que c'est ça aussi qui explique. C'est une petite brique, quoi. Voilà.
T'as raison, en fait, je l'avais pas pensé comme ça, mais la distinction, elle est là. Elle est dans, ce n'est pas une compétence supplémentaire, c'est un nouveau rôle qui vient s'ajouter à un, peut-être, autre
c'est
rôle.
C'est ça, à des compétences techniques, notre métier pour lequel on a fait des études et tout. Moi, je dis souvent, voilà, c'est un rôle à part entière qui doit occuper 100% de notre temps. Pareil, c'est pas la réalité. Donc là, faut être réaliste. Dans beaucoup d'entreprises, c'est pas le cas. C'est rarement le cas. On a plein de tâches opérationnelles qui arrivent à côté. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le considèrent pas à 100% comme un rôle à part entière qui doit avoir de l'importance. Et c'est juste un titre, en fait.
C'est ça.
On va le mettre sur la fiche de paye et dans l'organigramme, et ça s'arrête là.
Et en fait, la problématique, c'est que c'est très invisible au niveau des actions qui sont menées pure management. Parce qu'en fait, c'est leadership, en fait. On parle aussi beaucoup de ça, hein. C'est-à-dire comment je vais inspirer mon équipe, les motiver. Et donc, il y a toutes ces petites actions qui sont pas du tout petites au niveau symbolique, hein, qui vont être de écouter un collaborateur qui est pas bien, qui est surchargé, lui trouver une formation, enfin bref, toutes ces choses-là, donc tout ce qui est de l'ordre de la gestion humaine, entre guillemets, même si j'aime pas trop le terme, mais qui n'est pas de l'organisation pure, l'organisationnel pur, je veux dire, en fait, ça, on va pas le comptabiliser.
c'est pas factuel, c'est pas mesurable.
Alors ça l'est.
C'est pas un rendu. Ouais, c'est
voilà.
C'est pas un rendu qu'on peut constater. Comme tu dis, on peut le mesurer, l'évaluer, mais
c'est pas dans les pratiques. Hein.
Ouais, et puis tu sais, il y a des fois les dans les entreprises, t'as les productifs et les non productifs, tu vois. C'est enfin tout ce vocabulaire là aussi est lié à ça. Ben les managers, c'est des non productifs parce qu'en fait, on n'a pas de rendu
c'est violent,
visible.
Hein. Quand j'y pense, tu vois, en fait, non, ils font... Alors, attends, je vais te donner une autre info qui est quand même intéressante. Qu'est-ce qu'on sait? Donc, tout à l'heure, on disait effectivement que, finalement, créer une cohésion sociale, pour le dire vite, c'est ce qui va générer de la performance. C'est ce qui va faire que les gens aussi vont rester fidèles à ton entreprise ou à ton équipe.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça que tu veux. Parce qu'en fait, clairement, si on mesure au niveau monétaire, le turnover, ça coûte cher. Ça coûte cher à l'entreprise, mais ça érode, je dis toujours, ça abîme, en fait, aussi la motivation de l'équipe qui est déjà en place. Donc quand on a un qui part, t'as l'autre aussi qui peut dire « Ah oui, tiens, moi aussi, je vais peut-être partir, c'est pas une mauvaise idée. » Et en fait, ça, c'est pas du tout mesuré, puisque c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais si on commençait à se poser des questions à ce niveau-là, à vraiment mesurer et à prendre des décisions basées sur des données et pas sur des présupposés, on pourrait voir que le manager, finalement, si t'es un super manager qui est vraiment dans ce côté « je fédère l'équipe, je crée une ambiance où il y a de l'entraide, etc. », en fait, c'est grâce à lui que toute ton équipe, elle est toujours en place, qu'elle est stable et qu'elle génère de la performance. Hein.
Que ça avance, que ça tourne et qu'elle est performante. Ah oui, complètement. C'est le petit rouage qui peut tout changer.
Ben, complet.
Mais qui est caché, tu vois, derrière tous les circuits imprimés, tout le reste. Quoi.
Ouais. Mais en fait, si tu veux, il y a quelque chose qui va commencer un peu à bouger. Enfin, je l'espère. Ça, ce serait plus le rôle, tu vois, des psychologues du travail. D'aller mesurer. Donc en fait, on pourrait très bien faire passer des enquêtes, des questionnaires anonymes, etc., pour demander, pour mesurer le niveau d'engagement des équipes. Tu vois, tu peux l'avoir comme
complètement. Combien d'entreprises sont dans cette démarche-là?
Et non, parce qu'en fait, c'est sous-estimé et ils ont cette vision de l'humain que l'humain vient en échange d'un salaire parce qu'il est rationnel. Bah, dès que t'as cette vision-là, bah c'est forcément tu prends des décisions en conséquence. Donc l'humain, il a pas besoin de savoir pourquoi il travaille. Il vient travailler pour avoir un salaire à la fin du mois. Juste ça. Et ça doit le motiver à performer.
Et on voit combien le sens est important, encore plus ces dernières années. Et du coup, si on rejoint le sujet de la psychologie, des sciences comportementales et du parcours que tu as eu. Là, on a parlé de l'aspect très recrutement, entreprise, management, etc. Mais est-ce que tout ça, ça t'a amené quelque chose sur toi-même? Est-ce que t'as compris, est-ce que ça t'a révélé quelque chose sur toi-même de travailler sur ces sciences comportementales? Parce que c'est bien d'observer les autres. Mais qu'est-ce que t'as appris sur toi?
Bah, déjà, énormément de choses. Après, moi, comme je te disais, effectivement, déjà, j'ai eu un parcours, j'ai fait des études de psychologie, j'ai été psychologue, notamment aussi en cancérologie. Donc, t'apprends déjà pas mal de choses sur toi.
Ouais.
Voilà, tu te remets souvent quand même en question. Et dernièrement, là, dans toutes les études que j'ai lues, j'ai lu un livre qui est merveilleux et génial, qui relate 30 ans de recherche, qui ont été faites par une professeure, chercheuse de Stanford, qui s'appelle Carol Dweck. Et cette dame, elle a écrit un livre donc qui s'appelle « Oser réussir », et elle parle de « Growth Mindset, Fixed Mindset ». Donc, en gros, c'est quoi? C'est pas... un truc un peu farfelu, c'est vraiment l'idée qu'on a deux manières, en gros, d'envisager les défis, les erreurs, les problèmes, etc. Et selon la manière dont tu vas affronter ces difficultés, bah, tu vas pas avoir la même motivation à passer à l'action. Voilà, je le dis un peu vite. Hein. Fixed mindset, ça va être par exemple cette idée que je suis pas douée en musique, je suis pas douée en mathématiques. Non, mais de toute façon, le sport, je sais pas, c'est pas fait pour moi. Ou le management, non, mais j'ai pas l'étoffe pour être un leader. Toutes ces présupposés un peu qui sont très liés aussi à notre éducation. Hein, soit on est bon, soit on l'est pas. Mais voilà, on est né avec une quantité de je sais pas moi, de traits de personnalité, de dons, de peu importe, fixe, qui peut pas évoluer. Et évidemment, il y a un deuxième état d'esprit, une deuxième manière de voir les choses, qui serait plutôt l'inverse, qui est que je suis arrivée avec certaines cartes en main. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont peut-être un peu moins bien, mais peut-être que dans les domaines où je me sens moins bien, en fait, je peux évoluer, je peux apprendre. Typiquement, je sais pas, si tu te dis je suis pas douée au piano, si tu l'abordes avec l'état d'esprit growth mindset, tu te dis ouais, aujourd'hui je suis pas bonne dans cette discipline, mais je peux apprendre. Et donc effectivement, ça te motive à développer tes compétences. Donc c'est un petit peu, si tu veux, l'idée de que avec du travail, avec l'effort, on peut se donner plus de chances d'atteindre notre objectif. C'est pas tout réussir, mais on a plus de chances que si on adopte l'autre ouais. état d'esprit.
Et ça aide à passer à l'action et à mener les actions pour mais évoluer, pour avancer, ouais.
Mais là où ça m'a vraiment aidée à titre personnel, c'est qu'en fait ça m'a changé la façon dont je voyais entre guillemets mes erreurs. Donc je prends un terme un peu fort, mais parfois tu donnes des formations ou tu fais des interventions, tu te dis ah c'est pas à la hauteur de ce que je voulais, c'est pas comme je voulais. Tiens j'ai fait une conférence, j'ai bafouillé. Tu te sens pas forcément très bien. Et en fait ça m'a fait comprendre que le résultat de ce que je produisais, mes comportements ne définissait pas mon potentiel. C'est pas parce que ce jour-là, bah, j'ai pas donné la meilleure performance du monde que ça veut dire que je suis nulle. Donc, je suis pas assez douée.
Et que c'est ancré dans le marbre et que ça ne bougera plus jamais. Ouais.
C'est ça. Donc, ça permet, si tu veux, de défusionner, les comportements de qui je suis, voire de l'identité même, en fait. Et du coup, ça te déculpabilise vachement. Tu dis, OK, bah, en fait, oui, tu t'es plantée. Bon, bah, maintenant, tu vas analyser c'est quoi les erreurs, c'est quoi les améliorations, les machins, et puis tu vas essayer de progresser. Et il y a une petite formule que Carol Dweck donne dans son livre, elle dit, voilà, au lieu de se décourager en se disant « Ah, j'y arrive pas », elle dit, voilà, on pourrait dire « Je n'y arrive pas pour le moment
ouais. ».
Enfin, elle dit « Pas encore ». Moi, je dis « Pour le moment ». Et ça
ouais,
change complètement la donne.
J'allais dire encore, tu vois, moi c'était le mot encore qui me venait pour compléter la phrase, mais ah ouais. C'est exactement ça. C'est ben j'y arrive pas encore. Enfin, c'est ça laisse la porte ouverte à la progression et à s'améliorer, ouais. Donc j'aime beaucoup ce que tu as partagé. Alors, je connaissais, mais je pense qu'il y a des personnes qui connaissaient pas forcément et c'est vraiment quand on a ce genre de déclic, ça permet d'avancer à la vitesse de la lumière et à tout dégommer et effectivement changer la vision qu'on peut avoir des petites erreurs qu'on fait. La vie n'est que progression, en fait.
Mais
même quand on aura 60 ans, on va encore faire des erreurs. Et,
Bah, carrément. Puis, au niveau scientifique, on parle de neuroplasticité. On sait qu'on peut créer des connexions toute notre vie, donc c'est génial. Tu peux apprendre et progresser
c'est
tout
ça.
Le temps, quoi.
Donc, bah, merci beaucoup du partage. Je suis sûre que ça va parler à plein de personnes. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller qui t'ont marqué? Ça peut être sur les sciences comportementales ou pas. Alors, déjà, il y a ce que tu viens de dire, mais voilà. Est-ce qu'il y a des livres, des vidéos, des personnes que tu suis qui t'aident, qui t'ont marqué, qui t'ont aidé à avancer et que tu aimerais partager?
Donc, outre Carol Dweck avec son livre « Oser réussir », je pense notamment à Dan Ariely, qui est un très grand chercheur en économie comportementale. Donc, en gros, c'est de la psychologie appliquée aux décisions d'achat, on va le dire comme ça. Il a créé un ouvrage qui s'appelle « Est-ce que c'est vraiment moi qui décide ?» Et donc, c'est assez rigolo parce qu'il partage plein d'expériences sur des comportements qu'on va se reconnaître dedans, hein, irrationnels de nos achats, de décisions qu'on prend, qui sont quand même un peu particulières. Donc, c'est hyper facile à lire. Et ce monsieur, il a l'avantage aussi d'être sur YouTube. Donc, il y a des TEDx, il y a plein de conférences que vous pouvez retrouver. Et qui sont passionnantes. Et il a beaucoup travaillé aussi sur tout ce qui est motivation au travail. Qu'est-ce qui motive vraiment les gens? Et donc, sur mon compte LinkedIn, tu l'as peut-être déjà vu. Hein, je partage, aussi ces expériences. J'essaye de les vulgariser un peu pour qu'on puisse les comprendre un peu plus facilement.
Super. Voilà. Ah ben, je vais aller regarder ça. Et bien évidemment, les liens du coup seront dans les notes de cet épisode et sur l'article de blog l'associé. Bah écoute, merci beaucoup Audrey d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour celles qui aimeraient se connecter avec toi, te remercier pour le podcast, suivre un peu tout ce que tu dis parce que effectivement tu postes beaucoup voilà sur tout ce qui est motivation au travail, recrutement et tout ce qui a trait au management et au leadership sous cet angle un peu particulier. Voilà, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre.
Alors on peut me retrouver tout simplement déjà sur LinkedIn. Audrey Ginisti, donc peut-être que tu le mettras parce que mon nom, on l'écorche toujours.
Oui, tout à fait, je le mettrai.
et aussi sur Instagram, voilà. Et après, si vous êtes curieux et curieuse, il y a ma chaîne YouTube sur laquelle j'ai pas publié dernièrement, mais il y a des petites vidéos sympas sur la psycho et la personnalité, voilà.
La chaîne YouTube, c'est la psy qui parle, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Ouais, ben je mettrai les liens pareil dans la description de cet épisode. Merci beaucoup à toi.
Merci à toi surtout.
Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutées. Et ben nous, en tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine. Et nous, Audrey, on va continuer la conversation à côté. Merci à tout le monde.
Merci.
Et bonne fin de journée. Au revoir.
Au revoir.
Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.